Alors, souvent, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 8 août 2023, qui sera consacrée pour sa partie artistique sur une exposition que nous avons visitée, ma camarade et moi, à Metz, en Lorraine, au musée Pompidou. Une horreur entre nous, mais enfin bon. L'exposition est sympa, mais le lieu est abominable. Voilà. L'œuvre de Suzanne Valadon, est, enfin ma camarade est surtout une fan, moi je suis un peu plus modéré, mais en tout cas on a ramené de ce périple d'une journée plein de bons souvenirs.
Ouais, une exposition donc à Pompidou, Metz, c'est une exposition consacrée à Suzanne Valadon qui s'appelle Un monde à soi. Alors, Un monde à soi, c'est en référence justement à l'essai de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi. Donc, une chambre à soi, c'est cet espace dédié à la liberté intellectuelle et à la création artistique qui est revendiquée par l'autrice. Donc là, il s'agit de regarder l'œuvre de Suzanne Valadon en tant qu'artiste à part entière et non pas au sein de ce qu'on appelait ce trio infernal avec André Uther, son mari, et Maurice Outriot, son fils. Donc là, on est vraiment dans l'œuvre de Suzanne Valadon qui est riche, multiple et qui est vraiment une grande artiste. Donc je vais commencer par raconter un petit peu sa vie. Qui est cette Suzanne Valadon ? Alors, elle est née de son vrai prénom Marie-Clémentine et elle est née en 1865 à Bessines, c'est dans le Limousin. Alors, son père était faussaire et bagnard et la maman va cacher l'identité donc du papa pendant longtemps jusqu'à monter à la capitale pour échapper justement aux mauvaises langues. Et sa maman est blanchisseuse, donc c'est une ouvrière qui travaille vraiment avec plein d'énergie tout le temps et elle pense à Paris, pouvoir trouver un travail, beaucoup plus de travail et assurer l'avenir de la petite Suzanne. Qui s'appelle, oui, Marie-Clémentine. Donc, elle quitte le Limousin, elle prend le train et elle va s'établir à Montmartre, qui est encore un village. Elles y arrivent toutes les deux vers 1870, en pleine guerre et pendant la Commune de Paris. Donc Marie-Clémentine est scolarisée chez les sœurs, mais bon, elle sera rapidement renvoyée à cause de son caractère déjà bien trempé et des questions impertinentes qui déstabilisent l'établissement. Donc sa mère va lui trouver très tôt des petits métiers, elle sera bonne d'enfant, apprentie modiste, assembleuse de plumes, et son rêve, après avoir assisté à un spectacle de cirque, c'est de devenir acrobate. Dès son plus jeune âge, en fait, Marie-Clémentine sait en tout cas qu'elle ne veut pas devenir ouvrière et se tuer à la tâche comme sa maman. Donc elle va se faire embaucher dans un cirque jusqu'à ce qu'une chute l'oblige à arrêter. Donc Clémentine, qui est dite Maria, elle est encore très jeune et elle aime déjà dessiner avec tout ce qui lui tombe sous la main. Petite, elle dessinait, elle croquait sur les trottoirs avec des craies qu'elle volait à l'école et maintenant elle observe et elle croque les passants. Elle sait en tout cas effectivement qu'elle ne sera pas ouvrière comme sa maman. Et elle fréquente les cabarets montmartrois. Et là, elle rencontre Boissy. Boissy, c'est un poète volage, un poète assureur qui va devenir son amant. Il est peu intéressant. Et entre-temps, elle fait la connaissance d'un nouveau cavalier qui s'appelle Miguel Utrillo y Molins, qui est un aristocrate espagnol, un homme de lettres et critique d'art. Donc elle se partage entre ses deux amants et va rapidement attendre un bébé. Et c'est en livrant du linge repassé par sa mère qu'elle va chez Puvis de Chavannes. Donc la maman sait que c'est un homme important mais n'en sait pas plus. Donc Maria arrive chez Puvis de Chavannes avec le linge et celui-ci en la voyant va lui proposer de devenir modèle. Il travaille à son tableau le bois sacré cher aux arts et aux muses. Donc elle va commencer à poser, elle va faire pour différents personnages sur ce tableau. Et passionnée donc par tout ce qui concerne l'art, elle met à profit ses temps de pause pour observer tous les gestes du peintre. Puvis de Chavannes l'apprécie, il a son atelier qui est à Neuilly, donc il la raccompagne le soir dans le 18e et elle la questionne, elle est affamée de savoir. Le 26 décembre 1883 naît Maurice Valadon, qui ne sera reconnu par son père que bien plus tard et qui prendra alors le nom de Maurice Outrillo. Je pense que la paternité n'était pas complètement avérée entre Boissy et Outrillo, en tout cas, quoi. Et Maria est ravie d'avoir ce petit garçon. Elle a envie de le chérir par-dessus tout. Et entre-temps, elle continue de travailler comme modèle. Elle pose pour Renoir. Alors Renoir, qui vient de la même région justement que Maria, qui vient du Limousin. Elle va poser pour Stenlaine, elle va poser pour Sandometki, pour Toulouse-Lautrec. Et d'ailleurs, avec Toulouse-Lautrec, ils habitent dans le même immeuble. Ils auront une liaison qui sera passionnée, voire destructrice. Mais Lautrec l'encourage à travailler. Et là, elle va devenir Suzanne Valadon, ainsi surnommée par Toulouse-Lautrec, parce qu'elle pose pour des peintres âgés, donc il fait référence au tableau de Suzanne et les vieillards. Et donc, elle, ça va lui plaire, donc elle devient donc Suzanne Valadon. Donc, elle continue de dessiner, son trait est affirmé à l'image de son caractère. Elle fréquente les cabarets montmartrois en vogue, comme le Lapin Agile, le Moulin de la Galette, le Chat Noir. Elle rencontre Eric Satie, dont elle fait le portrait, et dont elle sera la seule relation intime. Je crois que leur rupture sera très difficile pour Eric Satie. Et ce sont Lautrec et Bartholomé qui vont lui proposer de montrer ses dessins à Degas. Et convaincu de son talent, ce dernier l'encourage à poursuivre et la soutient. Il va lui apprendre même la gravure dans son atelier, elle se sert de sa presse. Et c'est vraiment le passage important dans le basculement, je pense, de Suzanne Valadon en tant qu'artrice, c'est d'avoir été reconnue par Degas, qui n'était pas quelqu'un de facile, qui vieillissait, qui avait quand même un caractère assez
affirmé,
qui n'était pas forcément de bonne humeur. Enfin voilà, donc Degas vieillissant n'était pas quelqu'un d'agréable. Mais là, quand il voit les tableaux, les dessins de Suzanne, il reconnaît cette fermeté du trait. Pour lui, c'est important de l'encourager. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'aura même pas été modèle pour Degas, quoi. C'est vraiment leur relation est vraiment une relation de transmission de savoir. Et à 30 ans, elle se marie avec un banquier qui est riche et ambitieux. Il s'installe au 12 rue Cortot à Montmartre. Donc 12 rue Cortot, c'est là où actuellement il y a toujours l'atelier de Suzanne Valadon qu'on peut visiter dans ce petit musée. Et là, ils vont en même temps louer un pavillon à Montmagny et ils vivent tous ensemble. Suzanne n'abandonne pas du tout sa maman, qui s'appelle Madeleine, qui va vivre avec eux jusqu'à la fin de ses jours. Donc il y a Madeleine, la mère de Suzanne, qui vieillit, qui se fatigue de plus en plus parce qu'elle ne sait pas, elle travaille vraiment sans arrêt, elle travaille le jour, presque la nuit, quand il y a du linge en plus à préparer. Enfin, et elle s'occupe énormément du fils de Suzanne Valadon, elle s'occupe énormément de Maurice. Donc ils vivent tous ensemble, donc Maurice et Paul Moussis, son mari. Maurice, lui, quand même, souffre de solitude, il boit de plus en plus, il quitte le collège, il a plusieurs emplois successifs. Jusqu'à ce que son beau-père lui trouve un poste au Crédit Lyonnais. Suzanne continue de peindre et son talent s'affirme. Bon, le couple va se séparer quelques années après et Suzanne rencontre donc André Hutter, qui est un ami de son fils. Il a 20 ans de moins qu'elle et c'est également un peintre. Elle fait un séjour en Bretagne à l'île d'Ouessant, elle ramène de beaux paysages. Et Outrio, lui, par contre, a des problèmes d'alcoolisme, de comportement. Donc, il va être interné à Sainte-Anne, il va être interné à Sannois. Il fait déjà de la peinture. Et quand il va, par exemple, à Sannois, il va débarquer avec sa boîte de peinture et son chevalet. Et plusieurs amateurs, dont Octave Mirbeau, s'intéressent à son travail. En 1911, se déroule la première exposition individuelle de Suzanne Valadon chez Clovis Sacco. Elle participe l'année suivante à une exposition du groupe de Munich. Elle épouse André Hutter qui va partir à la guerre. Et sa grande composition, Le lancement de filet, va être exposée au Salon des Indépendants en 1915. Sa mère décède et Suzanne, elle continue de travailler. Elle peint de nombreuses toiles, elle fait des portraits, elle fait des nus, des natures mortes, des représentations réalistes de la vie montmartroise. Donc on parlera après de la façon dont elle... De son trait, comment elle travaille, comment on peut dire qu'elle peint comme un homme, mais ça on va revenir là-dessus sur cette affirmation de son trait. Et elle vit donc avec André Hutter, les peintures de Maurice se vendent bien, Hutter s'occupe de la vente des toiles et donc l'argent rentre à la maison. Ils vivent à Montmartre mais ils achètent parallèlement un château dans le Beaujolais dans lequel ils mènent une vie fastueuse, ils ont une voiture, du personnel, enfin voilà, Suzanne Valadon a envie que l'argent soit dépensé, puisqu'on en a autant vivre bien, quoi. Son succès est international, l'État lui achète plusieurs toiles. À la fin de sa vie, donc après elle se sépare d'André Uther, et à la fin de sa vie, elle va partager une relation avec le peintre Gazi le Tatar, et elle mourra d'une congestion cérébrale le 7 avril 1938. Son fils Maurice, lui, sera pris d'une crise nerveuse quand il verra le corps de sa mère, donc il ne pourra assister aux obsèques, et elle est enterrée au cimetière parisien de Montmartre. Donc voilà, c'est une vie riche, une vie vraiment d'artiste, quoi. Voilà, donc en fait, il y a trois biographies qui sont sorties sur Suzanne Valadon, qui m'ont un petit peu inspiré ce texte. Il y a une biographie qui est écrite par Jeanne Champion, alors ce sont des biographies romancées, donc c'est Suzanne Valadon par Jeanne Champion. La première fois qu'on avait découvert Suzanne Valadon, c'était par le livre de Michel Pénamor, Les escaliers de la butte. Il y a deux tomes qui racontent aussi toute sa vie. Et il y a un troisième livre que j'ai pas eu l'occasion de lire, c'est Suzanne Valadon, et c'est Thérèse Diamant Rosinski. Voilà, ce troisième livre, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Celui de Jeanne Champion, j'ai pu l'emprunter en bibliothèque. Apparemment, il n'était plus en vente à la librairie du musée, donc probablement qu'il est plus réédité. Hein. Donc ça, ce sont quand même des livres qui sont sortis dans les années 2000-2005.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux murs. Protège les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des protège les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
C'était la complainte de la butte.